Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Grace Amouzati.
À la une de l'actualité, plus de 6 millions de dollars américains, c'est la somme octroyée à la République démocratique du Congo par l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, pour financer le projet de développement de la chaîne de valeur de la filière manioc sur toute l'étendue du pays. Selon le ministre congolais de l'Agriculture, l'un des résultats attendus est la solution au problème de l'insuffisance alimentaire en RDC. Journée mondiale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes, c'était hier jeudi 2 novembre. À cette occasion, 10 engagements ont été signés solennellement par certains candidats à l'élection présidentielle de 2023 pour soutenir la liberté de la presse en RDC. Docteur François Diboué, membre du club de médecins de la province du Maniema, est l'invité de ce journal. Il nous parle de la sensibilisation des jeunes filles sur la lutte contre le cancer du sein menée au cours du mois d'octobre et des résultats obtenus. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. L'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, octroie 6,5 millions de dollars américains à la République démocratique du Congo pour financer le projet de développement de la chaîne de valeur de la filière manioc sur toute l'étendue du pays. John Dunlop, directeur de l'USAID, l'a annoncé hier jeudi ici à Kinshasa. Ce projet sera exécuté par l'IITA, Institut international d'agriculture tropicale. Pour le ministre de l'Agriculture qui a présidé cette cérémonie, l'un des résultats attendus est de résoudre l'équation de l'insuffisance alimentaire en RDC. Je vous propose d'écouter José Mpanda au micro de Paul Matindo.
Nous voudrions que les paysans de la RDC, qui est constitué de plus de 70%, puissent arriver à sortir de la pauvreté. Ici, l'objectif, c'est d'arriver à mettre fin aux importations et créer une production locale intense et lutter contre l'insécurité alimentaire. L'idée du gouvernement que nous portons, de vouloir développer l'agriculture comme un secteur priorité des priorités, un secteur pour le développement de la RDC. Et j'encourage, je félicite cette initiative des partenaires. Moi, j'appelle le monde paysan à faire confiance au gouvernement de la République pour qu'ensemble, nous arrivons à produire assez dans notre pays. Nous devons mettre fin aux importations. La RDC importe pour tout ce qui est comme produit vivrier autour de 95%.
Par ailleurs, une centaine d'embarcations en bois interdites de naviguer sur les eaux de la RDC. C'est le ministre des Transports et Voies des Communications qui l'annonce. Marc Ekila l'a dit mercredi lors d'une conférence de presse ici à Kinshasa. Selon lui, après le contrôle effectué par ses services, ces embarcations n'ont aucun titre leur permettant de naviguer. Marc Ekila est au micro de Paul Matindo.
En résumé, à l'issue de ces contrôles-là, concernant les unités flottantes avec coque en acier, l'administration et le ministère des Transports ont décidé de la mise en cale sèche des 37 unités qui ont été renseignées comme n'ayant pas respecté la périodicité de la visite du slipway. Concernant les embarcations en bois, sur le 162 qui ont été identifiés, malheureusement, il y a 102 qui n'ont pas de titre. Et les mesures qui vont tomber, ce sont les mesures d'interdiction. Et pour cela, il y a un arrêté qui est déjà signé, nous allons rendre public. Concernant les personnels navigants, nous allons interdire pour un temps à ces personnels qui ont été identifiés avec certaines irrégularités, dont 17 personnels navigants non matriculés par l'administration, c'est-à-dire ne sont pas reconnus, 19 personnels navigants mais n'ayant pas révalidé les titres, c'est-à-dire ils ont des titres qui ont expiré, et puis 60 sont renseignés comme ne détenant aucun titre.
Et puis, il fait très chaud ces derniers temps à Kinshasa. Selon le bulletin Metelsat, les températures atteignent jusqu'à 31 degrés de chaleur. Un autre site qui prélève la température ressentie parle même de 37 degrés. Face à cette situation, les médecins conseillent de porter des habits légers et de boire suffisamment d'eau la journée. Mais les fortes chaleurs font aussi l'affaire des vendeurs d'eau et des boissons, comme nous les confirment ces reportages signés Babel Mpongo Masimango et Merveille Hassani.
Parmi les conseils donnés par le médecin pour échapper à la déshydratation, se trouve en tête boire suffisamment d'eau. Et cette période de forte chaleur a fait l'affaire de vendeurs d'eau en sachet ou en bouteille. Nombreux parlent de l'augmentation de la recette journalière.
Je vends à Brikine et à Mimosa. Si le soleil est accablant, je vends jusqu'à 12 paquets et dans ces 12 paquets d'eau, je gagne 18 000 francs congolais.
Le vendeur de boissons alcoolisées ne sont pas en reste. La chaleur pousse en effet beaucoup de gens à chercher quelque chose de frais.
Les gens viennent vraiment acheter Castel, Beaufort, Nicoï, Nicofi.
Par ailleurs, d'autres affirment que par manque de courant, ils n'arrivent pas à bien vendre.
Il n'y a pas à vendre vraiment parce que nous avons un problème de courant. La semaine passée, nous avons fait 3 jours sans courant et quand il revient, il est vraiment faible. Nous ne vendons pas parce que les gens n'ont pas d'argent dans leur poche. Le soleil est ardent, oui, mais aucun client pour acheter.
Selon l'avis du médecin, il faut prendre au moins 2 à 3 litres d'eau par jour.
Parlant couverture santé universelle, plus de 8000 femmes ont accouché gratuitement un mois après le lancement du programme gratuité de l'accouchement. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé hier jeudi à Kinshasa. Samuel Roger Kamba l'a dit au cours de la conférence conjointe avec son collègue des médias Patrick Mouyaya. Selon lui, ce programme a coûté au gouvernement 42 millions de dollars américains. Suivez le ministre de la Santé Samuel Roger Kamba au micro de Paul Matendo.
J'ai présenté au conseil des ministres il y a 10 jours, le premier bilan du premier mois. Plus de 8000 mamans qui ont accouché complètement gratuitement. Je suis parti à l'hôpital de Kitambo voir les mamans qui ont été césarisées. Et les mamans vous disent, si ce programme n'existait pas, j'allais payer entre 600 et 800 dollars. En d'autres termes, le président a donné à cette famille-là l'équivalent de 600 ou 800 dollars par le système qui a été mis en place. Ça, c'est une avancée stratégique parce que tout simplement, nous modifions les impacts globaux de la santé. Le premier impact, c'est lui qui est de l'espérance de vie, qui est aujourd'hui la plus faible d'Afrique. Nous avons, la RDC est à 3 ans de moins que la moyenne africaine. Eh bien, l'approche stratégique que nous avons permet de modifier cet impact. Nous modifions l'impact de l'accès aux soins. L'accès aux soins, c'est du développement.
Je l'ai dit au sommaire, célébration hier jeudi 2 novembre de la journée mondiale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Ici à Kinshasa, 10 engagements solennels ont été signés par certains candidats à l'élection présidentielle de 2023 pour soutenir la liberté de la presse en RDC. Cet acte d'engagement est l'œuvre de l'ONG Reporters sans frontières. C'était au cours de la cérémonie de la présentation du rapport 2023 de l'ONG Journalistes en danger sur la liberté de la presse en RDC. Au cours de la même activité, une motion de soutien aux journalistes Stani Boujakera par des associations professionnelles des médias a été lue. C'était en présence de plusieurs personnalités et autres professionnels des médias. Les détails dans ce reportage rendu par Pele Kipelamondo.
Dans cette motion lue par le président de l'UNPC section de Kinshasa, les organisateurs professionnels des médias exigent la libération immédiate et sans condition de Stani Boujakera, car selon elle, les confrères est arrêté arbitrairement et ne doit pas servir de bouc émissaire dans l'affaire non encore élucidée du meurtre de l'ancien ministre des Transports Chérubin Okende, Jean-Marie Kasamba.
Parce que la liberté de presse est indispensable à la démocratie. Parce que les charges retenues contre notre confrère sont fantaisistes. La place du journaliste n'est pas en prison, mais dans sa rédaction.
Une autre étape importante de la cérémonie est l'appel au candidat président de la République en faveur de la liberté de la presse. Parmi les engagements à prendre, favoriser l'indépendance et la professionnalisation du secteur des médias. Adélard Obouloukouès, enseignant à l'IFASIC, nous présente d'autres engagements.
M'abstenir de toute pression contre des journalistes et condamner systématiquement et publiquement les tentatives de discrédit et autres attaques verbales provenant d'acteurs politiques et en particulier émanant des membres de mon parti et de mon administration.
Cet acte d'engagement a été signé notamment par les représentants des candidats Moïse Katumbi, Delice Sanga et Dr Denis Mukwege.
Pele Kipelamondo sur la fréquence de la paix. Pour sa part, le président de la section de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC à Beni, au Nord Kivu, dénonce quelques cas d'intimidation et d'agression dont sont souvent victimes certains journalistes de la région. Mustapha Mulonda explique au micro de Marc Marufimbo.
Il y a des cas isolés d'intimidation et d'agression que les journalistes subissent de la part des acteurs de protection, mais pas seulement les acteurs de la protection, même des civils. Il y a des mouvements citoyens, il y a des groupes de pression qui essayent de montrer que les journalistes se penchent beaucoup plus du côté du pouvoir. Alors moi je considère la presse de chez nous comme étant une presse qui vit entre les marteaux et l'enclume. Quand vous essayez d'arbitrer l'information du côté du gouvernement, il y a les civils qui pensent que vous vous penchez du côté du gouvernement et vous diffusez les informations pour l'intérêt du gouvernement. Et quand vous êtes du côté de la société civile, il y a aussi les acteurs de protection qui pensent que vous êtes en train de jouer les jeux de l'ennemi. Alors ça, c'est une situation exceptionnelle qui met à mal les journalistes et qui fait à ce que les journalistes ne puissent pas être libres dans ce qu'ils font comme travail de récolte, de vérification, de traitement et de diffusion de l'information.
La liberté de la presse se porte bien en RDC aujourd'hui qu'hier. Affirmation du gouvernement congolais en réaction au rapport de l'ONG Journaliste en danger, GED, qui présente les statistiques faisant état des 523 cas d'attaques diverses contre la presse durant le premier mandat de Félix Tshisekedi, dont 88 en 2023. Au cours d'une cérémonie de la présentation de ces rapports hier jeudi à Kinshasa, à l'occasion de la journée mondiale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes, le gouvernement congolais appelle les journalistes au strict respect de leur code d'éthique et de déontologie professionnelle et réitère ses efforts à promouvoir la liberté de la presse. Suivez la réaction du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, faite par son directeur de cabinet, Nicolas Lianza Likwali.
Ici est le cadre idéal d'affirmer que la liberté de la presse dans le pays démocratique du Congo se porte mieux aujourd'hui qu'il y a des années. Et les résultats le démontrent, bien que les statistiques du rapport nous présentées datent que sur le quinquennat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Certes, beaucoup doit être fait et beaucoup sera fait. La liberté de la presse ici et ailleurs est un processus. Et ce processus se fait avec l'accord et la participation de tous les acteurs du secteur. Il y a lieu de préciser que le gouvernement de la République démocratique du Congo juge inopportun de la part de cette association de faire une mauvaise publicité sur la sécurité du journaliste alors que beaucoup a été fait, notamment dans la mise en place des systèmes d'alerte via des groupes WhatsApp dont GED participe de manière permanente. Il est bien de dire des choses qui ne fonctionnent pas, il est aussi mieux de dire ce qui ont fonctionné.
Direction la ville de Kikwit, au Kwilu, où un étudiant de l'Institut supérieur pédagogique ISP a été sauvagement tué mardi dernier par des inciviques, juste après la cérémonie de sa collation de grade académique. Le maire de cette ville indique que les présumés auteurs de cet acte odieux sont arrêtés par la police et affirme avoir pris des dispositions sécuritaires afin que pareil drame ne se reproduise plus. Pour sa part, la société civile de Kikwit déplore cette perte et dénonce à l'occasion la persistance de la criminalité depuis un long moment dans la ville. Cette structure citoyenne appelle les autorités attitrées à prendre leurs responsabilités en main pour sécuriser la ville. Irène Bouma.
Ce n'était qu'une courte joie pour cet étudiant de l'ISP Kikwit, nommé Zando Iwaka. C'est le jour de sa collation de grades académiques que ce lauréat du premier cycle en français a été tué par un groupe de jeunes non autrement identifiés. Les faits se sont déroulés mardi au quartier Carrière dans la commune de Lukolela à Kikwit, alors qu'il provenait de cette cérémonie accompagnée des siens dans une ambiance festive. L'autorité urbaine de Kikwit, Abengiama, explique.
C'était l'ami de lauréat qui avait jeté la poudre, comme on le fait lorsque quelqu'un est collé. Mais ils ont trouvé ça comme est-ce qu'on nous a jeté le poudre. Et à la maman qui vendait sur place, l'autre là est parti récupérer le couteau chez la maman pour venir poignarder. On a déjà arrêté quelques-uns. Nous avons pris des mesures sécuritaires pour que pareil événement ne puisse plus arriver dans notre ville.
La société civile de Kikwit, qui condamne fermement les meurtres de cet étudiant, dénonce la persistance de l'insécurité sur cette ville. Laurent Bouenya, son président, rappelle qu'il y a quelques jours, un cortège funèbre a été inquiété au cimetière de Ndunga par des bandits et lundi dernier, des bandes de Kuluna s'étaient affrontées et cela a occasionné un mort parmi eux. Il en appelle à la responsabilité des autorités. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président russe Vladimir Poutine a signé hier la loi sur la révocation de la ratification du traité d'interdiction des essais nucléaires sur fond des conflits en Ukraine et des crises avec les Occidentaux. Le traité d'interdiction complète des essais nucléaires a été ouvert à la signature en 1996, mais il n'est jamais entré en vigueur car il n'a pas été ratifié par un nombre suffisant d'États parmi les 44 pays qui détenaient des installations nucléaires au moment de sa création.
L'invité.
Notre invité est Dr François Diboué, membre du club médical dans la province du Maniema. Au cours du mois d'octobre et 10 mois roses dédiés à la lutte contre le cancer du sein, ce club a sensibilisé la communauté et surtout les jeunes filles sur ce fléau. Il nous parle des résultats obtenus dans cet entretien accordé à Florence Kizalunga.
Docteur François Diboué, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Mois d'octobre, 10 mois roses de sensibilisation sur la lutte contre le cancer des seins. Vous, club de médecins, vous avez pris l'initiative de sensibiliser la communauté et en particulier les jeunes filles dans des écoles. Quel bilan faites-vous de cette sensibilisation?
Le bilan pour la sensibilisation, nous pouvons dire que nous sommes parvenus à sensibiliser plus de 500 élèves dans des écoles. Nous sommes partis dans plus de 3 écoles où nous avons fait cette sensibilisation. Pour nous, les bilans s'avèrent positifs.
Qu'est-ce qui justifie ces choix des écoles alors qu'il y a des femmes partout ailleurs?
Les choix des écoles, c'est d'abord, nous avons dit, ce sont des cadres de demain. À partir d'elles, l'information sera vulgarisée dans toute leur famille. Mais aussi, nous étions tombés à un moment un peu compliqué parce que notre souhait, c'était d'aller voir les jeunes filles des universités. Malheureusement, c'était dans la période où les universités ont déjà fermé les portes. C'est comme ça, nous avons pris l'option de trouver les filles au niveau des écoles. C'était ça, les choix.
Alors, en sensibilisant les filles, quel a été votre message clé pendant vos séances d'échange?
Le message clé pendant les séances d'échange, c'était le dépistage. Parce que comme il est toujours dit, lorsque cette maladie elle est connue tôt, la prise en charge est aussi favorable. C'est comme ça, nous sommes beaucoup plus martelés sur d'abord comprendre, connaître cette maladie, savoir les complications, savoir à quoi est-ce que ça consiste. Mais aussi, nous sommes beaucoup plus martelés sur le dépistage contre le cancer du sein.
La sensibilisation, c'est celle pour ce mois ou bien comme le mois se clôture et vous aussi vous vous arrêtez là ou bien vous allez faire comment? Que propose Medicals Club?
Medicals Club, comme nous avons terminé ce mois dédié à la sensibilisation du cancer du sein, nous avons tout un agenda chargé pour le mois de novembre parce que déjà dès demain c'est le mois dédié à la sensibilisation de l'hypertrophie bénigne de la prostate et le 14 novembre c'est le jour international contre le diabète sucré. Je crois qu'au sein de l'équipe nous sommes en train de préparer d'autres activités pour parvenir à sensibiliser la population sur différents fléaux qui touchent la communauté.
Les filles étaient tellement intéressées à votre sensibilisation et elles voudront savoir si elles veulent faire le dépistage. Est-ce que le dépistage est gratuit ou c'est payant?
Bon, les filles ont été vraiment intéressées par cette sensibilisation. Dire que le dépistage est gratuit, nous pouvons dire non parce que nous sommes organisés par nous-mêmes, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de prise en charge par rapport à cela. Mais sinon, on peut devoir étudier avec certains hôpitaux par rapport à ça et savoir dans la mesure du possible comment alléger les coûts de cette situation. Mais sinon, Medicals Club se prend en charge lui-même. Il n'y a pas de financement pour dire que nous pouvons rendre ce dépistage gratuit.
Mais pourquoi vous êtes déjà une organisation, une association? Pourquoi vous-même, vous ne pouvez pas consulter ces filles que vous venez de sensibiliser aujourd'hui?
Bon, dans l'ensemble, Medicals Club, c'est un club qui agit dans la communauté. Nous pouvons faire le dépistage, mais il faudrait que nous ayons des locaux, il faudrait que nous ayons des moyens pour même de faire la mammographie parce qu'on ne peut pas simplement se limiter à faire le dépistage par l'examen clinique. Il faut faire l'examen imagérique qui est la mammographie et tout cela demande le moyen. Et Medicals Club jusqu'à maintenant se prend encore en charge lui-même et il n'a pas de moyens suffisants pour faire cela.
Même la sensibilisation, ça demande aussi des moyens. Comment alors vous avez réussi à faire la sensibilisation et vous serez incapable de dépister les enfants?
Vous devez comprendre que ce sont nos petits moyens de bord qui nous ont poussé à faire cela parce que tellement que nous sommes animés de bonne volonté, de bonne foi, ça nous a coûté beaucoup de choses pour parvenir à faire cela. Mais je vous promets, nous allons devoir étudier et trouver gain de cause pour parvenir à faire le dépistage chez les jeunes filles d'une très bonne manière.
Le cancer, une maladie dangereuse. Quel message à toute la communauté?
Le cancer, une maladie dangereuse telle que vous le dites, ça constitue un problème de santé publique et nous ne pouvons que demander à toute la communauté qui va devoir nous suivre en ce moment précis, toute la communauté de la République démocratique du Congo, en particulier celle de la province du Maniema, que lorsque la maladie elle est connue tôt, la prise en charge est favorable, la prise en charge est faisable. C'est comme ça qu'on doit devoir considérer que cette maladie tue énormément, cette maladie donne des complications énormes qui conduisent à la mort, que nous appelons des métastases dans différents organes outre que le sein. Et c'est comme ça, si on est déjà informé de cette situation, on doit devoir prendre des précautions afin de ne pas tomber dans cette situation.
Docteur François Diboué, merci.
Merci beaucoup.
Notre invité répondait aux questions de Florence Kizalunga. Ainsi s'achève ce radiojournal coordonné par Noëlla Luzitu Kabambi et supervisé par Pele Kipelamondo. Vous pouvez réécouter ce journal sur notre site internet www.radiokapi.net. Merci.